Bien, donc les réductions de la foi. On a dit, ça ne se réduit pas à un code moral, à être pratiquant, ni même à une appartenance sociale. Je me souviens très bien, j'avais été archi choqué il y a pas mal d'années déjà. Une amie libanaise qui m'avait soutenu, mais alors avec une fermeté extrême, qu'on pouvait très bien être chrétien et athée. Alors, attends, non, mais ça se comprenait très bien dans son cas, parce qu'au Liban, vous êtes né chiite, sunnite, grec orthodoxe, catho, machin, etc. Mais c'est une question sociale. Le problème, c'est que c'est pas ça qui est être chrétien. Bon, j'avais vu en Grèce aussi, c'était la même histoire, jusqu'à l'entrée de la Grèce à la communauté européenne, dans la carte d'identité, c'était marqué orthodoxe. Enfin, en Grèce, si vous naissez en grec, en Grèce, vous étiez orthodoxe. Et après, il faut se souvenir quand même de cette célèbre phrase de saint Augustin quand il disait « L'Église a beaucoup d'ennemis parmi ses enfants et beaucoup d'enfants parmi ses ennemis. » Bon, c'est l'art de la phrase de saint Augustin, mais effectivement, c'est tout à fait pertinent enfin, de dire ça. Conduit dans un dicton espagnol, tous ceux qui y sont ne sont pas forcément, tous ceux qui n'y sont pas, bah, c'est qu'il y a un jeu de mots entre le verbe être dans l'essence de la nature et être présent. Effectivement, tous ceux qui sont ne les sont pas, tous ceux qui ne sont pas, ne les sont pas forcément ailleurs. Donc, l'appartenance est autre chose que l'être physique dans la chose. Ce n'est pas non plus une sorte de doctrine ou une vision du monde qu'être chrétien. Ça, c'est une réduction aussi. Et comme dit encore une fois saint Augustin, il y a une différence entre croire que et croire en. Si vous maîtrisez les prépositions, vous connaissez bien une langue. Donc là, c'est très important. Croire que, ça c'est de l'ordre intellectuel. Croire en, c'est de l'ordre de la vision personnelle. Ça change complètement. Alors, voilà, là vous avez le croire que et le croire en. Alors, la foi positivement, on dit souvent, c'est de l'ordre de la relation, de la confiance faite à quelqu'un. Dans les cas précis, Jésus, qu'on reconnaît comme Christ, et ceci, croit en de façon inconditionnelle. Les savoir à propos de lui et les faire à la suite de lui vient après. Mais d'abord, c'est les croire en. Croire en qui, comme je disais, établit une relation de confiance. Bon, il est évident que pour croire en, il faut avoir quand même un minimum de connaissances de la personne en qui on croit. Donc on ne va pas faire confiance au premier venu, ni la façon la plus bébête. Hein. Il faut quand même se renseigner légèrement. C'est... Comment peut-on entrer en relation avec quelqu'un si on ne connaît rien de lui ni de rien ? On peut dire que on commence à avoir la foi chrétienne quand on commence à adhérer à la personne de Jésus. Et de ce point de vue, il faut se souvenir toujours que ce n'est pas un effort de l'homme qui va conduire à la foi. La foi est un don et l'homme est là pour l'accueillir ou pas. Toujours dans la liberté de la réponse de l'homme. Et ça, c'est quand même extrêmement important. La question de la réponse en toute liberté. La foi met en jeu tout le ressort et toutes les ressources de la personne. Le mieux pour expliquer ça, c'est de se souvenir de ce célèbre texte du quatrième évangile, chapitre 6, qu'on lit chaque année au mois d'août. C'est pas la meilleure période pour approfondir parce que à cette époque-là, généralement, on plonge mais dans la mer ou à la piscine, mais pas dans les textes bibliques. Mais enfin bon. Jésus, enfin, c'est le récit qui raconte comment Jésus a donné à manger à la foule. Et le discours s'élève, celui qui ne mange pas ma chair ne voit pas mon sang, etc. etc. Des réactions violentes et des rejets violents. Et face à l'hostilité que provoquent ces paroles et le scandale que ces paroles proposent ou provoquent, le texte dit, à la suite donc, beaucoup arrêtèrent de les suivre. Et Jésus demande à ses disciples, vous aussi, vous voulez me quitter? Vous voulez partir? Alors Pierre, toujours Pierre, répond avec une célèbre phrase, un vrai axiome. Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as des paroles de vie éternelle. C'est vrai que dans cette situation disons, critique, on met en œuvre toutes les ressources pour donner une réponse. Il est probable que historiquement ça ne correspond pas à une scène le jour X, mais ces textes de Jean rassemble très bien les différences, présente très bien tous les éléments de la réponse de l'homme par rapport à la foi proposée par le Christ. C'est dans le sens que de dire « toi seul as les paroles de vie éternelle ». Ce qui ne veut pas dire, n'ayez pas peur, qu'ailleurs il n'y a pas aussi... quelque chose de positif, mais bon. La foi met en jeu la liberté de l'homme, sa capacité de décider. La foi ne se commande pas, et la confiance non plus. Quand tu as des crises de ceci ou de cela. Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, et quelqu'un qui me disait, bon, j'étais un peu froid, un peu, oui, ou un peu chaud, genre, comme vous voulez, il dit, ah, il faut faire confiance, je dis, la foi ne se commande pas. Il faut faire confiance, la confiance se gagne. Regardez, sinon, la situation dans laquelle on est maintenant en France. La confiance ne se décrète pas, même dans n'importe quel type de relation, que ce soit des relations de couple ou n'importe, c'est pas parce que décrète qu'on est dans une situation qui suppose la confiance, mais ça ne se vend pas ni au Monop, ni je ne sais pas où. La confiance se gagne. Et la foi aussi. La foi, donc, suppose une adhésion, même imparfaite. On ne va pas dire, je ne suis pas encore prêt, tant que je ne serai prêt à 100%, je ne m'engage pas, non. Enfin, ça sera toujours imparfait, mais une adhésion. La foi met aussi en jeu l'intelligence. Ce qu'on essaie de faire ici, de cultiver l'intelligence, comme on dit très souvent. La tête, on l'a non seulement pour aller chez le coiffeur une fois tous les X, mais aussi pour réfléchir et pour l'activer. Et la foi met aussi en jeu la dimension corporelle de l'homme. Et de la forme, les sacrements sont des lieux de l'expression corporelle aussi. La naissance, l'Eucharistie. Les sacrements mettent aussi en jeu la beauté, la simplicité, la voix. Là-dedans, je sais pas si je vous ai dit ça, mais ça m'avait bien frappé quand j'allais chez moi. Il y avait un coiffeur où j'allais quand j'allais, qui était à peu près de mon âge, qui un jour m'a dit, en parlant d'un autre prêtre, etc., dit, ah, mais quand il célèbre, etc., il ne sait pas quoi faire de son corps. Et c'est vrai que souvent on voit quand même comme des pulpes, ça fait partie de la dimension de la foi, de célébrer ou d'être dans une célébration qu'on préside ou pas, mais on voit souvent maintenant, par exemple, les gens qu'on dit, qui viennent tous les 3 ans parce qu'il y a Marais sur un terrain, ils ne savent pas comment s'y prendre, comment faire. On ne va pas, pour ça justement, c'est formalisé, dire il faut faire ça, comme ça, faire comme ça. C'est de voir qu'est-ce qu'on vit. Et à ce moment-là, les gens expriment avec leur corps aussi ce qu'on vit. La dimension sociale. La foi s'exprime communautairement, si vous préférez, collectivement. Le mot collectif est plus connoté. Communautairement. Les actes fondamentaux de la foi, le baptême et l'Eucharistie, ne se font jamais ou ne se réduisent jamais à des actions individuelles. Il y a pire, excusez-moi, connerie, par exemple, d'un prêtre qui dit sa messe tout seul dans sa chambre. Ça c'est les combles de l'absurde. Parce que s'il y a quelque chose d'évident, c'est que l'Eucharistie, c'est une célébration communautaire. D'ailleurs, même si l'Église n'a pas vocation, ou la communauté chrétienne n'a pas vocation à imposer ses vues au niveau social, elle a vocation à dire aussi ce qu'elle pense. Donc, je raconte souvent cette histoire parce que on ne réalise pas. Au moment où Franco est mort, le 20 novembre 75, à 7 heures du mat. Il y avait en Espagne plus de prêtres en prison que dans l'ensemble du pays de l'Est. On était loin encore de la chute, du mur et tout ce que vous voulez. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que la situation était devenue tellement horrible qu'on ne pouvait ne pas parler, etc. Et dans les homélies, ben, très souvent, et bon, clac, plouf. Ils étaient condamnés à des amendes très lourdes, et comme ils ne pouvaient pas payer, prison. Et à ce moment-là, il y avait... Et quand on me dit, ben, l'Église ne doit pas faire de la politique. Il faut dire quand même qu'avant cela, l'Église avait fait beaucoup de politique en Espagne. Pas forcément la meilleure. À preuve. Après, la chute fut rude. Bon. Point suivant. Le caractère ecclésial, donc, de la foi. La foi ne peut pas être vécue en dehors de la communauté des disciples du Christ. D'une part, comme dit Paul, la foi vient de ce qu'on a entendu parler. Donc ça vient par autrui, par un autre. On ne l'invente pas. Et du point de vue historique, la foi chrétienne vient, on l'a dit souvent, des apôtres et disciples. Les chrétiens sont dans une chaîne de personnes et de communautés qui ont transmis et proposé la foi en Jésus-Christ. Regardez bien, ces détails sont toujours très significatifs. Regardez bien, par exemple, pour le coup, l'ordomis, c'est-à-dire le rituel de la messe. Premièrement, 98% des fois où le président, du préfet, le prêtre parle, il est fait à la première personne du pluriel. Les prières eucharistiques sont toutes et toujours et doivent être toujours rédigées à la première personne du pluriel. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te remercions, nous te rendons. Toujours, toujours, nous, nous, nous. Le Notre Père, ce n'est pas mon papa, c'est notre Père. La dimension du nous prévaut absolument toujours dans toute expression de la communauté chrétienne. Le Concile Vatican II a récupéré, si l'on peut dire, cette dimension communautaire et ecclésiale de la foi. Mais, comme c'est toujours, hein, après, il y a eu une sorte de retour en arrière. Un exemple, par exemple. Après, Vatican II, je ne sais pas si vous vous souvenez, fréquemment on faisait des célébrations pénitentielles. Des célébrations communautaires pénitentielles ou célébrations communautaires de la pénitence. Donc j'en ai fait des tonnes. Maintenant, ça a disparu. Mais oui. Si vous proposez, c'est pas si vous êtes sur Paris ou pas, mais si vous proposez à Paris de faire ça, le prêtre va vous dire avec plus ou moins de douceur et éventuellement une certaine bonne foi que ceci, cela, donc on est revenu au confessionnal. Et la dimension communautaire a complètement disparu. En 2000, c'est pas si long, c'était pour célébrer les jubilés de l'an 2000, etc. Les conférences épiscopales d'Angleterre, d'Écosse et de je sais pas quoi, enfin toutes les îles britanniques, avant le Brexit et tout ça, ils avaient prévu un rassemblement monstre dans un stade monstre, enfin bref. Et ils avaient prévu une célébration pénitentielle. Il y a eu un conflit majeur avec Rome. C'était du temps de notre vénérable Jean-Paul II. Et finalement, les évêques britanniques ont dû céder pour ne pas créer encore un autre schisme. Il y avait eu déjà un au XVIe siècle pour une histoire que vous savez bien. C'est maintenant rajouté. Mais comme si les célébrations pénitentielles communautaires ne permettaient pas à chacun de, disons, célébrer la pénitence en dimension individuelle, ça c'est tout à fait certain. Mais le contraire n'est pas vrai. Le confessionnal ne permet pas d'honorer la dimension communautaire de nos fautes. Et vous savez parfaitement bien que le péché social, ça existe. Et nous en avons des tonnes d'exemples. Bon. Mais c'est une sorte de preuve que rien n'est jamais définitivement gagné.
Non, mais c'est même bizarre parce que il est souvent dit que la confession est un sacrement qui est de plus en plus rare. Et on n'est pas revenu aux cérémonies pénitentielles. Moi, j'aimais beaucoup les cérémonies pénitentielles communautaires. Et ça m'a beaucoup manqué à partir du moment où je ne sais pas pourquoi, mais il n'y en avait plus. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas réintroduit ces cérémonies pénitentielles en dépit du fait que la confession est quelque chose d'extrêmement...
Oui, non, mais ça, c'est tout à fait certain que la pratique du confessionnal, pour ne pas dire la pratique de la confession, s'est faite archi rare. Ça, c'est certain, d'autant plus qu'effectivement, ça avait été pendant trop longtemps, comme a dit François, faut pas faire du confessionnal une salle de torture. Et ça a été une salle de torture pendant très longtemps, pendant des siècles. Ça a été les lieux privilégiés de volonté de l'Église et des prêtres du contrôle de la société. Par exemple, au niveau de la sexualité des gens, et surtout des femmes. Ça, c'est... Il faut dire les choses comme elles sont. Je me souviens très bien de ma mère, évidemment, etc., qui fréquentait beaucoup un couvent de capucins qui avait chez nous, et puis elle me racontait toujours la même question des nombres d'enfants, il fallait pondre. Et ma mère, qui avait quand même un caractère particulièrement ferme. Bon.
Répondez quoi ?
Hein ?
Répondez quoi ?
Elle s'est plaignée souvent, et je me souviens très bien, quand elle s'est plaignée, c'est qu'elle répondait mon père. Et quand elle disait, ah, ceci, c'est là. Et mon père disait, tu n'avais qu'à faire comme moi. Et ma mère disait, mais quoi ? Tu ne tiens pas compte de ce qu'ils te disent. Et pourtant, ils étaient extrêmement croyants quand c'était vraiment des choses essentielles. Mais tous ces machins-là, ben, je ne sais pas si je vous dis ça, mais il y a, disons, 20 ans, 15 ans, mon frère qui était prêtre aussi, il était responsable de la pastorale familiale du diocèse. Et en tant que ça, il devait être à des réunions au niveau national. Et une fois, il est allé aussi, bon, et quelqu'un a raconté qu'ils avaient fait une enquête auprès des militants, des cadres, si l'on peut dire, des diocèses à la question familiale. Hein. Donc, machin qui faisait la préparation au mariage, le ceci, le cela, enfin tout ça. Donc, les militants convaincus et qui donnaient de leur temps et de leur énergie. Et pour ces gens-là, pour les militants, 93% des militants disaient qu'ils ne tenaient aucun compte des positions de l'Église en matière sexuelle, affective, etc. Et mon frère leur a dit, écoutez, il faut communiquer ça au plus vite aux évêques pour qu'ils... Ah, mais ils vont être choqués, etc. Ils vont être choqués, ils vont être choqués, mais c'est tout là. Mais il ne faut pas incommoder les chefs. Et si vous les faites, après vous êtes mal vu par le chef, parce que vous avez empêché de dormir la sieste du chef. Mais c'est ça qui un manque de... Enfin, bref. Comme on le voit dans le Nouveau Testament et dans d'autres lieux, la foi chrétienne éprouve le besoin de se communiquer. Et la foi, qu'on le veuille ou non, a une résonance, des répercussions dans les milieux où, où elle vit. Ben, si vous avez une société dans laquelle vous êtes que 0,5%, les chrétiens, ça se verra peu. Quoique. Je me suis entraîné dans un pays africain, je suis allé une fois tout à fait par hasard, c'était un colloque improbable, mais enfin bref, je suis allé voir les seuls évêques du pays qui se trouvaient être basques. Et quand vous entrez dans son bureau, vous croyez en plein Pays basque. Enfin, tout la découvre, enfin bref, bon. Et il m'a demandé de lui donner des renseignements après pour voir comment on pouvait former un prêtre dans la communication, la télévision, etc. etc. Non pas pour faire de la théologie, mais comment faire correctement le métier de communicant. Il m'a dit, parce que ici on est tout le temps sollicité à la télé, à la radio, etc., même au niveau politique, même si on est une infime minorité, sollicité comme des conseillers, des machins, etc., etc. Et donc il faut quand même qu'on ait quelqu'un qui sache parler à la télé, qui sache parler à... Enfin, comment faire, etc. Bon, je vais envoyer après toute une série de trucs, mais... C'était un pays, mais vraiment, où les chrétiens, il avait 5 prêtres pour tout le pays. Bon. Mais 5 prêtres, mais un pour la com. Parce que sinon, je ne dis pas que parce que vous êtes formé, vous ferez ça correctement, mais si vous ne l'êtes pas, ça c'est sûr ou presque que vous ferez... des conneries comme la Tour Eiffel. Ça, c'est absolument évident. D'autant plus qu'effectivement, la foi n'est pas un paquet de vérités qu'on ressort à chaque fois, comme on dit page 48. La foi ne se réduit pas non plus du tout au célèbre catéchisme universel. Déjà qu'il est déjà... il a 20 et quelques, mais il est passablement vieillot déjà. Bon, point suivant. La foi est un chemin. Étant donné que la foi, donc, c'est une adhésion à une personne, ça s'actualise, ça s'active, si l'on peut dire, au fur et à mesure. La première rencontre qu'on a et qui peut nous conduire éventuellement à la foi, etc., peut venir par des voies extrêmement variées. La rencontre avec quelqu'un, je me souviens par exemple qu'on avait rencontré il y a très longtemps, Pasolini, vous voyez, très bien, bon, il avait fait le film L'Évangile selon Saint Matthieu. Il était un athée très... radical, si l'on peut dire. Mais il avait raconté qu'il avait été subjugué par l'évangile de Saint Matthieu un jour à l'hôtel, je ne sais plus où, ou, comme c'est souvent le cas, surtout en Amérique, etc., dans toutes les chambres d'hôtel, vous avez une Bible. Mais donc, il est tombé sur elle, je pense qu'il n'avait rien d'autre. Et il avait été subjugué par l'évangile de Matthieu, il avait fait le célèbre film, qui est quand même un des meilleurs... du point de vue de la filmothèque, si l'on peut dire, évangélique. Mais vous pouvez être aussi subjugué par une émission télé, par un article, par une personne que vous pouvez voir. Les premiers signes peuvent être très variés et souvent insoupçonnés. La démarche peut, la première démarche peut provoquer des suites différentes. Bon, par exemple, je me souviens de quelqu'un qui était encore catéchumène, donc n'était pas encore baptisé, mais il avait dit, avant que d'aller jusqu'au bout, il faut que je me forme. Et donc, il avait suivi 2 ou 3 ans des cours de théologie Bon, c'était quand même une démarche rare. Je ne pense pas que tous les catéchumènes passent par la phare. Mais fait, bon, là, c'est un cas. C'est donc là, c'est une conséquence qui provoque cette curiosité intellectuelle. Mais en même temps, ça peut aussi provoquer des envies de rencontrer d'autres gens qui sont croyants, qui ne sont pas forcément de mon cercle proche, etc. Enfin, des gens différents, enfin, bon, et qui se disent « je suis croyant ». Les deux côtés, l'approfondissement intellectuel et la connaissance d'autres croyants, d'autres témoins, sont indispensables tous les deux, parce que sinon ça reste un peu... Tout au long de ces processus qui l'amènera éventuellement au baptême, il y aura aussi des doutes. La personne sera forcément tiraillée par des doutes, par des interrogations, des reculs. Bon, je viens d'une jeune femme qui est maintenant en préparation pour le baptême qui normalement... elle sera baptisée à Pâques prochain, mais à un moment, avec toutes ces histoires de pédophilie des prêtres, etc., elle disait, mais dans quelle galère je m'embarque ? Bon, on peut dire que ça ne fait pas une pub exceptionnelle. Et donc les doutes peuvent surgir tous les jours. Et les comportements des croyants aussi, quand quelqu'un qui se présente comme croyant, ou qui l'est, mais bon. Et tout d'un coup, il y a des travers, ben ça pose des questions sérieuses. Quand on vient, au contraire, au monde, dans un bain, disons, chrétien, qu'on est baptisé au bout de 2 jours, 3 jours, maintenant un peu plus tard, bon, à un moment ou à un autre de l'existence, c'est pour ça qu'on... La personne va se poser des questions et va adhérer personnellement. Bah, c'est un peu quand on me dit ah, mais comment tu as fait tu es entré au séminaire à 12 ans. Je dis bon, d'accord. Alors, à 12 ans, à 12 ans, sur un séminaire, comme j'aurais pu aller au club de foot. Enfin, mais à un moment, tu te poses les questions concernant la voie que tu suis ou que tu vas suivre. La preuve, nous avons commencé le petit séminaire 125 et on a été ordonné 3. Donc c'est une ratio, comme on dit maintenant, un peu raide. Hein. Et mieux encore, on avait fini toute la théologie 14. Et de ces 14 qui avaient fait toute la théologie, on en redonnait 3. Les autres sont suivis d'autres voies. Bon. Mais ça n'empêche que commencer tôt, si l'on peut dire, une voie, ça va obligatoirement, à un moment ou à un autre, vous poser la question du sens de ces premiers choix. Et c'est un choix à activer et à actualiser de façon permanente. De ce point de vue, par exemple, il y a quelque chose d'assez simple. La prise de conscience de l'histoire est souvent cause de doutes. La prise de conscience de l'histoire des chrétiens, des églises. Et trop souvent, on présente la communauté primitive comme exemplaire, modèle, exempte d'ombre, etc. Mais si vous lisez les actes des apôtres, c'est pas ça. La première communauté chrétienne était travaillée et traversée aussi des doutes et des questions. Et des comportements plus ou moins particuliers. Ceci est d'autant plus fort encore quand on regarde l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, évidemment, étant donné qu'il a une dimension historique beaucoup plus forte, une épaisseur historique beaucoup plus forte que le Nouveau. Le Nouveau, ça s'est fait en 50 ans. L'Ancien Testament, ça traîne pendant 1000 ans. Hein. Donc, les contrastes et les images pas forcément réjouissantes sont fréquentes et beaucoup plus fréquentes dans l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce que... C'est pour ça, mais les problèmes que le Nouveau ou l'Ancien Testament vont nous provoquer ne vont pas être résolus en les cachant ou en les évitant, mais au contraire en les affrontant. C'est pour ça, comme règle générale, il faut aussi être prêt, être armé, si l'on peut dire, à discuter et à voir de près tous les problèmes qui vont surgir au long de notre chemin de foi. Je m'arrête là et on se dit à la semaine prochaine, dernier cours de la semaine.
Oui.
tout à fait.